Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure de la crise mondiale que nous connaissons tous, les États-Unis traversent eux aussi une série d'épreuves particulièrement alarmantes. Du point de vue sanitaire, près de 200 000 personnes sont mortes du coronavirus. Économique, le taux de chômage s'envole. Identitaire, les violences policières contre George Floyd ou Jacob Blake ont enflammé la société américaine qui, en plus, à 2 mois de choisir un nouveau président, voit ressurgir le spectre du terrorisme en la personne de la nièce de Ben Laden qui annonce, si Trump n'est pas réélu, un nouveau 11 septembre, au moment même où nous commémorons les 19 ans de cette tragédie. Et pourtant, ce n'est pas de cette Amérique-là que nous allons parler aujourd'hui avec notre invité, ou plus tard, mais de l'Amérique des années 1980-90, vue, traversée, ressentie d'un lieu hautement symbolique, un canoë qui, pendant plusieurs semaines, a descendu le Mississippi avec à son bord celui qui allait devenir un écrivain et un écrivain célèbre, Eddie Harris. Bonjour.
Bonjour Catherine.
À 30 ans en effet, sur un coup de tête presque, vous avez pris la décision sans préparation en amont de parcourir le grand fleuve américain sur environ 4000 km du Minnesota à la Louisiane, traversant plusieurs états donc jusqu'à la Nouvelle-Orléans et sur un canoë tout seul. Un voyage qui a donné naissance à un livre, Mississippi Solo, édité en 1988 aux États-Unis et qui, après un succès immédiat et toujours d'actualité 30 ans après, vient de paraître aux éditions Liana Levy dans une traduction de Pascal-Marie Deschamps. Mais pour revenir aux sources de ce périple, quelle était votre envie en vous lançant ce défi, Eddie Harris?
La première chose à savoir, c'est que je n'ai pas fait le voyage pour faire le livre. Le voyage était le voyage pour changer ma vie, pour savoir qu'est-ce que j'avais dans mes tripes. Je voulais être un écrivain déjà. J'avais fait 7 ans d'échecs et je voulais savoir si je pouvais continuer, qui était cette personne, qu'est-ce que je peux faire pour me montrer que j'avais le quoi faire pour être un écrivain.
Parce que donc d'abord, vous doutiez de vous, à la fois comme écrivain et comme personne peut-être ?
Bien sûr, comme écrivain, parce que j'ai écrit je ne sais pas combien de romans maintenant, 6 ou 7 romans, sans être publié. Donc à un moment, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment un écrivain ou juste quelqu'un qui écrit ?
Parce que vos manuscrits étaient refusés, c'est ça ?
Oui, complètement. Même le Mississippi Solo a été refusé quand j'ai terminé ce livre, 55 fois. Par les agents, par les éditeurs, tout le monde qui l'a lu ne voulait pas le publier. Sauf une petite maison d'édition qui a dit « Ah, c'est pas mal, on va prendre le risque ». Et avec ça, le succès, et ça continue à se vendre.
C'est devenu un livre de référence.
Oui, c'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi ce livre-là et pas les autres.
Donc c'est parce que vous êtes à un tournant de votre vie, à un croisement peut-être ?
C'est sûr.
Est-ce que c'était une façon aussi de vous rapprocher d'Ernest Hemingway, qui est un de vos auteurs de prédilection et qui est quand même l'écrivain américain très physique du 20e siècle?
Je pense que pas seulement sur ce voyage, mais aussi mon amour pour la France, pour l'Europe, l'Espagne, les choses que je fais. J'ai fait Pamplune je ne sais pas combien de fois maintenant et je pense que Hemingway est dans le jeu quelque part.
Donc Eddie Harris, vous partez à l'aventure, assez mal équipé d'ailleurs, faut le reconnaître. Par exemple, vous n'avez même pas de bottes, donc vos pieds là dans des petites sandales prennent l'eau tout le temps. Vous vous jetez d'une certaine façon dans l'inconnu, avec donc l'envie de réussir un exploit, de retrouver une assurance que vous aviez perdue, aussi peut-être aussi de montrer à votre entourage, vos parents, vos amis, que ben vous valez aussi quelque chose. Mais est-ce que vous vous doutiez que vous alliez surtout aller à la rencontre de l'Amérique ? Et de son histoire avec ce Mississippi qui est un symbole américain.
C'est sûrement un symbole. Et bien sûr, j'ai rencontré l'Amérique, mais c'était pas le but. Le but, c'était de me rencontrer et de savoir qui je suis.
Mais une fois que vous êtes dans le canoë, c'est bien l'Amérique que vous rencontrez, pas seulement vous.
Oui, mais c'était pas le but. Le but, la rencontre avec l'Amérique est venue pendant.
Et ça, vous ne l'aviez pas imaginé?
Non, non. Je ne pensais même pas ce que j'étais sur le point de faire.
Parce que c'était tellement fou.
C'était tellement fou et j'avais tellement pas d'expérience que... Déjà, je ne savais pas que le Mississippi était si petit quand j'ai...
Si petit?
À la source du fleuve.
Ah oui, à la source dans le Minnesota.
Dans le Minnesota, il est
c'est tout petit.
Petit. On peut traverser le fleuve à peine en mouillant les chevilles. Donc c'est une crique, c'est petite. Et j'ai décidé de faire ce voyage sans avoir un canoë, sans avoir l'équipement de camping, pas de tente, pas de sac de couchage, rien du tout. J'ai emprunté la tente, j'ai emprunté le canoë, j'ai emprunté presque tout, j'ai acheté le sac de couchage. Et le reste, avec peut-être $50 dans ma poche, je suis parti et voilà.
Mais il y a une forme d'inconscience quand même dans ce périple, Eddie Harris, parce que ça aurait pu tourner au drame comme dans Délivrance, par exemple, le film.
Oui, et en fait, avant de partir, mon oncle Robert m'a dit de être conscient des possibilités de danger. Il disait, vous partez d'un lieu où il n'y a pas beaucoup de noirs et tu descends ou vous descendez vers une partie du pays où on n'aime toujours pas les noirs. Fais attention.
On va en reparler de ça. Donc, étape après étape, vous pagayez le jour, vous bivouaquez la nuit, parfois vous vous arrêtez dans des villes pour manger, pour acheter à manger, pour parler avec les locaux. Vous découvrez le pays, vous faites de nombreuses rencontres, des belles comme des mauvaises d'ailleurs. Mais de façon générale, on peut dire que vous n'avez connu que des personnes bienveillantes qui vous aident, sauf deux hommes qui vous voulaient du mal. Est-ce que vous diriez de façon générale que c'est le côté accueillant des Américains qui, même s'ils voient un fou descendre en canoë le Mississippi, lui ouvrent les bras et font tout pour l'aider?
Ou peut-être parce que il voit un fou dans un canoë sur le Mississippi. Mais je pense que c'est pas ça. Je pense, en fait, au cœur des gens, il y a toujours quelque chose de bien.
Vous êtes américain, vous êtes né sur le sol américain, ou à Indianapolis?
À Indianapolis.
Indianapolis, donc vous étiez habitué à cette bienveillance. Mais là, c'était un peu particulier quand même.
Pas sûr. Parce que mes expériences, globalement, sont très bien avec les gens. Et dans le va-et-vient entre deux personnes, peut-être je donne quelque chose qui attire quelque chose de même façon. Je ne suis pas agressif, je ne suis pas malheureux dans ma peau. Peut-être les gens, peut-être il y a quelque chose qui résonne avec des étrangers que je croise. Je ne sais pas. La seule chose que je connais, c'est que les gens sont très bien avec moi et vice-versa. Sauf ces deux mecs dont vous parliez tout à l'heure. Oui, il y avait toujours quelqu'un qui sont menaçants. Et là, je croisais deux personnes avec leurs fusils qui voulaient me menacer, je crois. Il est aussi possible qu'ils blaguaient, je ne sais pas, mais je ne voulais pas prendre le risque.
À juste titre. Alors, ce que je trouve extraordinaire, Eddie Harris, en lisant votre livre, c'est qu'il est extrêmement documenté. Vraiment, chaque détail de vos journées, les rencontres, les noms, les descriptions, alors que ça dure des semaines. Donc, j'ai bien entendu que vous aviez décidé d'écrire ce livre à mi-parcours et que vous l'aviez fait juste après d'être arrivé. Donc, on est quoi, en 1985. Mais vous aviez gardé en vous tout cela, parce que j'imagine qu'on n'a pas le temps de prendre des notes sur un canoë. Il y a un moment, vous lisez, mais on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Mais je pense que vous avez autre chose à faire que prendre un papier et un crayon.
Oui, mais franchement, j'avais aussi un magnétophone. J'ai enregistré certaines conversations. Et le voyage, les rencontres étaient si impressionnantes que je pense que je n'avais pas besoin des notes ou de la magnétophone non plus. Dans ma mémoire, tout était bien encrusté.
Donc c'est vraiment une expérience. D'ailleurs, ce qui est très, je suis très admiratif de voir aussi comment, en dépit de la fatigue, de la douleur physique, parce que même vous vous abîmez la mâchoire, enfin une dent en particulier. Je n'ai pas compris pourquoi vous n'étiez pas allé chez le dentiste, parce que visiblement ça avait l'air de faire souffrir. Mais vous avez peur, mais jamais vous ne lâchez prise, Eddie Harris. Alors est-ce que c'est par orgueil, parce que vous ne voulez pas abandonner, ou parce que c'est aussi l'intuition en vous que c'est un voyage initiatique et qu'il est nécessaire d'aller jusqu'au bout, un peu comme un rituel d'apprentissage?
Je ne peux pas dire que c'était l'orgueil ni que ce n'était pas l'orgueil. Je peux dire que au départ, quand je voulais faire le voyage, et tout le monde disait non, 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 ne le fais pas. En arrivant à Saint-Louis, mon intention était d'arrêter.
Saint-Louis, c'est presque au milieu.
Oui. Et avec les voix dans ma tête de tous ces gens qui disaient que non, tu ne réussirais jamais avec cet exploit, j'ai décidé de continuer parce que maintenant, les mêmes gens disaient que c'était une bonne chose à faire. Même mon frère voulait faire un petit... Il voulait faire le reste du voyage.
Il l'a fait un petit peu, mais alors...
Tout petit peu. Une journée, il a duré. Maintenant, je voulais prouver aux autres que j'avais la capacité de finir ce voyage.
Mais comme vous vouliez aller à votre rencontre, Eddie Harris, est-ce que effectivement vous pouvez dire, une fois arrivé à la Nouvelle-Orléans, que oui, vous vous êtes rencontrés et que vous avez profondément changé au terme de ces 4000 kilomètres?
2 mois déjà, 8 semaines, je ne suis pas sûr si j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, si j'avais changé. Ce que je peux dire, c'est que la personne qui est sortie de ce voyage est quelqu'un que je connais maintenant très bien et que j'aime beaucoup.
Donc, il y a eu quand même une révélation.
Oui. Si j'avais des doutes de ma force, maintenant, à la fin du voyage, pas de doute du tout.
Et puis, 30 ans après, vous avez refait le voyage, Eddie Harris. Vous êtes retourné sur le Mississippi pour un documentaire, cette fois. Extrait.
When I think of the Mississippi River, and when I look out to where the river is so broad you can hardly see the opposite shore, I say to myself, I can't do it. It's too big. There's too much water. And I'm afraid. It's good that the river starts so small, so gentle, so easy to handle. You and your canoe gain in experience and skill as the river gains in size and amplitude, a narrow creek turning into a mighty stream. Luckily, as with life, you cannot see very far into the distance. You don't get the whole perspective. You don't see how dangerous it is and how daunting. You take it one stride, one stroke at a time, learning as you go.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivain américain Eddie L. Harris, avec qui nous parlons de Mississippi Solo, son premier livre qui vient d'être traduit en français aux éditions Liana Levy et qui a été donc aussi le fil conducteur d'un documentaire américain dont on vient d'entendre un extrait où 30 ans après, vous êtes retourné sur ce grand fleuve que vous aviez descendu à l'époque seul en canoë. Et dans votre récit, vous racontez croiser des gens très modestes, voire pauvre, comme dans la petite ville d'Helena, à 60 kilomètres au sud de Memphis, dans le Tennessee, où là, vous voyez des gens qui vivent presque dans des bidonvilles. En tout cas, vous dites que c'est, je vous cite, le tiers-monde. Ça a été un choc pour vous, ça?
Oui, totalement. Même si j'avais déjà parcouru partout dans les États-Unis, de voir certaines choses me choquait beaucoup. Je savais que tout le monde n'était pas riche, mais la pauvreté comme telle, ouf, ça a été un grand choc. Ouais.
Et donc, quand récemment vous êtes retourné faire le voyage, c'était les mêmes scènes sur la berge, des gens aussi pauvres?
Là, peut-être le pays a changé, ou le fleuve a changé, ou a changé le pays qui touche. Mais là, les mêmes scènes de pauvreté comme ça, j'ai pas vu, pas de même façon. Mais quand j'arrive cette fois à Helena, la ville est presque morte. Il y a très peu d'activités, sauf un festival de blues une fois par an, et ce n'était pas l'année, ou c'était pas la période de l'année où le festival se passe. Donc la ville d'Helena était pratiquement vide, c'était un ghost town. Et je pense qu'il y a plusieurs villes comme ça, comme Cairo dans l'Illinois. Les choses ont changé à ce point-là que la pauvre, les bidonvilles ne sont plus là, mais la ville n'est pas là non plus.
Donc la misère est telle qu'en fait, la ville est morte et que c'est devenu un désert économique.
Exact, oui.
Donc, 30 ans après, le pays va moins bien. C'est ce que vous êtes en train de nous dire?
On peut dire moins bien dans certains coins, beaucoup mieux dans d'autres.
Ça a dû être un peu désespérant pour vous de voir de tels changements, ou vous aviez les yeux braqués sur ce fleuve et le Mississippi que vous aimez tant?
Non, ça m'a donné en fait, bizarrement, une envie de retourner vivre aux États-Unis, d'essayer de faire quelque chose.
Alors que vous vivez...
Ici en France.
Oui. Depuis combien de temps?
Très longtemps. Je suis dans mon petit village en Charente. 15 ans déjà. Et avant ça, j'étais à Paris. Donc, pas mal de temps. J'ai pas fait, mais j'avais l'envie de retourner aux États-Unis pour donner mes expériences ou ma connaissance ou mes capacités dans une aide pour aider le pays.
Alors, il y a une question que nous n'avons pas encore abordé directement. Vous l'avez évoqué dans la première partie de notre entretien. C'est la question du racisme. Et en effet, quand on vous annonce que vous descendez le Mississippi vers le sud, votre oncle dit « Ah là, où les Noirs ne sont pas très aimés ». Et vous enchaînez en écrivant « Et j'ai réfléchi au fait d'être noir ». Fermez les guillemets. Vous n'y aviez pas réfléchi avant.
Je sais que j'étais noir. Je savais que j'étais noir. Je suis toujours noir. Mais je ne vis pas ma vie comme si d'être noir est la chose la plus importante de moi. Mais là, je voulais au moins exprimer que dans les yeux d'autres personnes, la première chose qu'ils voient, c'est une personne noire. Mais c'est peut-être la dernière chose qui sort de moi quand je pense à moi.
Et en même temps, en vous lisant, en tout cas, on a l'impression que votre couleur de peau n'a pas été un enjeu pendant ce voyage. Est-ce que c'est vraiment le cas?
Je pense que c'était le cas, sauf pour les deux mecs menaçants.
Mais là, c'est une exception sur des dizaines de rencontres.
Oui. Et quand je parle aux gens, quand je parle des gens dans le livre, je n'indique pas qui est noir et qui est blanc. C'est juste des gens que je croise. Et c'est comme ça que je vis ma vie aussi. C'est pas une question de couleur ou de race. C'est des gens qui sont bien ou les gens qui sont pas bien. Et basta pour moi. Ça suffit.
On est d'accord. Mais néanmoins, cette question raciale, vous l'avez subie à d'autres moments de votre vie, si ce n'est pas sur le Mississippi?
Oui, bien sûr. Je suis noir aux États-Unis. Bien sûr, je vis des choses. Mais comme je suis Eddie Harris et pas un homme noir, je vis des choses peut-être différemment. J'ai une confiance, même avant ce voyage, j'ai une confiance en moi. J'ai une famille qui était très bien, je ne sais pas comment dire, mais c'est une famille...
Unie, en tout cas, c'est ce que je vois aujourd'hui sous vos mains.
Très unie et très supporteur et très soutenue et tout était bien dans cette famille. Si j'avais un problème, je prends mes problèmes à la famille et on gère la situation. Donc, même si j'avais un problème avec la police, avec mon éducation, avec ma manière d'être, avec une famille qui me soutient, je n'avais jamais un vrai problème avec personne. Et si le problème semblait plus grand, j'avais une capacité de laisser tomber les choses qui n'étaient pas importantes. Et je ne porte pas mon aigritude, ma noirceté comme un fardeau. C'est juste une apparence physique. Pour moi, c'est pas la seule chose, ni la chose la plus importante.
On est bien d'accord. Mais malheureusement, est-ce que ça veut dire que vous n'avez jamais été victime d'arrestations arbitraires, par exemple?
Si, si, si. Mais j'ai une façon de jouer le jeu avec la police que, même en France, je suis arrêté arbitrairement. Mais en France, la première chose que je sors, c'est mon passeport. Quand je conduis un peu trop vite, si je suis arrêté par un policier, je sors le passeport et ça change le jeu. Avec la police aux États-Unis, j'ai d'autres méthodes, mais pour moi, c'est un jeu. Et jusqu'à maintenant, c'était un jeu pas dangereux.
Pourquoi jusqu'à maintenant? Quelque chose a changé?
On ne sait pas, mais aux États-Unis, les gens sont flingués par la police pratiquement tous les jours. Donc si je faisais les mêmes choses aujourd'hui que je faisais il y a 30 ans, pas certain que je m'en sors comme comme j'ai fait.
Et même si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, comment est-ce que vous vivez toutes ces émeutes aux États-Unis, justement, et cette violence raciste?
C'est affreux. Encore une raison pour moi de déménager, de quitter la France pour vivre aux États-Unis, pour essayer de faire quelque chose. Parce que je pense qu'avec mon optique, ma façon de voir les choses, ma façon de vivre les choses, je peux apporter quelque chose. Je pense aussi que les autres livres que j'ai écrit un peu trop tôt. C'est maintenant que les livres sur le Sud, parce que j'ai fait un voyage dans le Sud, un voyage en Afrique, j'ai écrit deux livres sur ces deux voyages, et je pense que les propos que j'avais presque il y a 30 ans étaient trop tôt. Les gens ne voulaient pas entendre le fait que je pense que je suis un Américain et pas un Afro-Américain. C'est le moment de dire que les Noirs sont là, et il faut accepter ça. Et nous sommes là. La mère patrie n'est pas l'Afrique, mais les États-Unis, basta. Et la même chose avec cet essai de réconciliation que j'ai fait dans le Sud. C'est le moment maintenant de changer les façons de penser pour les Américains, noirs et blancs et hispaniques et autre chose.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites, Eddie Harris. Et en même temps, si je peux me permettre, lors de ce voyage, alors encore une fois en 1985, donc il faut remettre aussi hein, dans le contexte, bien sûr que la ségrégation n'existe plus. Et pourtant, vous avez un échange très significatif avec une femme qui tient à Vicksburg un petit restaurant. Voilà ce dialogue, page 280 de votre récit Mississippi Solo. En jetant un coup d'œil autour de moi dans son petit café, aux quelques tables au centre et contre le mur, au comptoir avec ses tabourets à main gauche et voyant à quel point l'endroit était propre et bien éclairé, j'ai évoqué les gargotes du sud d'autrefois et j'ai dit que les choses avaient vraiment changé. En surface, elle a répondu, mais en dessous, le cœur est toujours corrompu. C'est plus subtil maintenant, on ne voit plus autant de haine. Et nous autres, les Noirs, nous avons un nouvel ennemi, nous-mêmes. Nous sommes les premiers à nous plaindre du manque d'opportunités. Et puis quand l'un d'entre nous réussit, les autres Noirs lui en veulent. C'est tout juste s'ils viennent manger ici. Fermez les guillemets. Qu'est-ce que il faut comprendre par « nous, les Noirs, nous avons un nouvel ennemi, nous-mêmes » Eddie Harris.
Une chose qui saute à mes yeux tout de suite, c'est que déjà, la ségrégation officielle n'existe plus. Mais la ségrégation existe dans les quartiers, dans les boulots, un peu partout, mais c'est sous la surface. Une raison qu'un resto tenu par un noir ne fonctionne pas, ou peut éventuellement ne fonctionne pas, ou trop bien, c'est que les noirs, une fois qu'ils ont la possibilité d'aller ailleurs, ils vont ailleurs. Donc, les hôtels qui étaient dans les années 50 ou 60 exprès pour les Noirs n'existent plus. Parce que les Noirs, maintenant, je peux aller au Hilton ou au Ritz ou quelque chose d'autre. Je vais dans les Hilton, le Ritz ou le Radisson et j'ignore maintenant les hôtels noirs. La même chose pour les restos. Et la même chose pour d'autres choses aussi. Et dans cet échange avec cette restauratrice, je pense qu'elle voulait dire que elle a fait des pas pour avancer dans sa vie et maintenant elle est méprisée par la communauté noire parce qu'elle voulait faire quelque chose. À l'école, souvent, c'est un peu stéréotypique, mais souvent, les noirs qui veulent être les meilleurs étudiants sont traités comme les voulant être blancs. C'est un critique sévère. J'ai entendu ça quand j'étais jeune, parce que j'étais pas bête. Et les autres noirs que je connaissais dans le quartier, ils me critiquaient parce qu'ils disaient que je voulais être blanc. Parce que je voulais parler l'anglais correctement, je ne voulais pas avoir cet argot typiquement noir. Et pour eux, j'étais un peu trop élevé, je me voyais trop élevé. Ils disaient que je voulais être comme les blancs, c'est la même chose que d'être blanc.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion de ce que vous êtes en train de nous dire, Eddie Harris?
Il faut vivre pas avec les yeux des autres sur la tête tout le temps. Il faut décider qui vous êtes et être ça. C'est tout.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir des États-Unis et d'Harris? Je vous pose la question parce qu'on est effectivement à un moment charnière, me semble-t-il. Comme je le disais, économique, politique, sanitaire. Vous qui, depuis donc plus de 15 ans, vivez en France, comment est-ce que vous envisagez cet avenir?
Je pense que j'ai vu cet avenir il y a quelques années. J'aurais dit que je voulais un président comme Trump pour mettre au clair des choses. Et maintenant, on a touché le fond avec Trump. Et je pense que je voulais avoir un président qui va nous mener tout au fond, où j'étais avant de faire ce voyage, pour remonter après. Et je pense que Trump est cette personne. Le pays, je pense, touche le fond actuellement. Et si on va sortir de cette misère, c'est maintenant ou jamais. Soit le pays sort, soit le pays va se ruiner.
Vous allez voter en novembre ?
Oui, bien sûr.
Vous avez toujours la nationalité américaine et vous votez par correspondance.
Non, normalement j'y vais, mais cette année avec le Covid, peut-être pas.
Et vous pensez que Trump va être réélu ou pas ?
Non, je pense que non. Mais j'ai pensé non la première fois aussi.
Mais encore une question, pourquoi est-ce que vous avez quitté les États-Unis ? Ou plus exactement, est-ce que vous avez quitté les États-Unis, Eddie Harris, ou est-ce que vous aviez envie de voyager, de vivre ailleurs, et que vos pas vous ont mené particulièrement en France, à Paris, Hemingway, James Baldwin, et puis aujourd'hui en Charente ?
Oui, c'est plutôt ça. Je n'ai pas quitté les États-Unis. Je n'avais pas une vie misérable aux États-Unis. J'étais attiré par la France. Je suis venu en France parce que la France m'a dit quelque chose. Il a parlé à mon âme. Quand on parle de cette résonance entre deux personnes, j'ai toujours une résonance quand je suis en France, que je n'ai nulle part ailleurs. Quand je suis en France, je suis vraiment chez moi. Donc, j'ai pas quitté les États-Unis, mais la France m'a dit, Eddie, viens. Et une fois j'étais là, oh la vache.
Allez, avant de nous quitter, Eddie Harris, sur le canoë, vous ne pouviez pas écouter de la musique. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre comme chanson, comme air, pour accompagner cette fusion aussi avec les éléments, l'eau, la nature, les animaux? Parce que c'est aussi une célébration formidable de la nature.
Oui, il y a plusieurs musiques qui sautent à l'esprit tout de suite. Mais la chanson emblématique, c'est Old Man River. Mais faite par un guitariste, Tommy Emmanuel, qui m'a fait, en fait, pour le documentaire que j'ai fait. Il a fait une version de Old Man River qui est magnifique, absolument magnifique.
Eh bien voilà, on se quitte avec ce morceau. Merci beaucoup, Eddie Harris, d'être venu au micro de RFI pour nous parler de ce livre Mississippi Solo que les Français peuvent enfin découvrir dans une traduction de Pascal-Marie Deschamps et un livre qui est apparu aux éditions Liana Levy. Merci beaucoup.
C'était un plaisir.
Réciproque.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.